Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de notre série de podcasts pour le colloque Droit et résistance numérique en contexte francophone. Je suis Steph Kawe, ravi de vous accompagner pour ce bilan final. Au cours des derniers jours, nous avons eu l'opportunité d'explorer des thématiques variées et essentielles autour des droits et résistances numériques dans un contexte francophone. Lors de la dernière rencontre, nous avons organisé une séance de travail interactive avec pour objectif de discuter des suites à donner à ces rencontres et des collaborations possibles. Nous avons remarqué que plusieurs intervenants internationaux n'ont pas pu assister à l'événement en personne car ils n'ont pas obtenu leur visa. Sur 12 personnes, seule une a pu obtenir son visa pour participer au colloque. Malgré ces défis, la rencontre a été importante et a peut-être donné lieu à des partenariats enrichissants. Pour approfondir ce bilan, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec Stéphane Couture, co-directeur du Lab Delta, pour discuter des objectifs initiaux de ce colloque et de son déroulement.
Bonjour, moi c'est Stéphane Couture, je suis professeur en communication à l'Université de Montréal, au département de communication. Je suis également co-responsable ou co-directeur, selon les termes du moment, du laboratoire sur les droits en ligne et les technologies alternatives, le Lab Delta. Et c'est nous qui organisons la conférence ou les rencontres d'aujourd'hui, de cette semaine en fait. Le Lab Delta, ça a été créé dans le cadre d'un partenariat avec une organisation à but non lucratif qui s'appelle Alternative. Ils sont moins impliqués maintenant, mais l'objectif, c'était de situer à l'intersection de la recherche, qu'on appelle, et de l'action. Donc, essayer d'avoir, faire de la recherche, s'appuyer sur les recherches académiques, les réflexions intellectuelles, mais avoir un impact, en fait, un impact social sur les enjeux qu'on appelle de droits en ligne ou de droits numériques, gouvernance d'Internet et technologies alternatives qui renvoient surtout dans notre esprit au logiciel libre, mais aussi aux plateformes alternatives ou à Wikipédia. Ça a été créé en 2020, en plein pendant la pandémie. On a reçu une subvention de départ de l'AECI, l'Autorité canadienne des enregistrements d'Internet. Et ensuite, on a eu plusieurs petits financements qui nous ont permis de continuer comme ça. Et le financement qu'on a présentement, c'est du Conseil de recherche en sciences humaines, pour financer cette conférence-là qu'on organise depuis presque 2 ans, en fait. Dans l'organisation de la conférence, le principal défi, ça a été, comme j'ai dit, ça a été au niveau des visas, en fait. Ce qu'on voulait initialement, c'était... on avait identifié quelques personnes, en fait, avec qui qu'on voulait travailler, surtout des personnes en Afrique. Et dès la demande de subvention, on les avait inscrits avec leur nom. On disait, ben ces personnes-là, si on a la subvention, on va financer leur voyage pour qu'ils viennent. Et c'est un peu paradoxal parce que la subvention, elle vient du gouvernement du Canada. On n'a jamais réussi à obtenir des visas pour eux. Certaines personnes ont demandé 2 fois le visa. On avait même reporté la conférence une deuxième année. C'est plus un défi organisationnel, là, mais pour le Canada, pour supposons que nous, on veut devenir comme prendre un leadership à ce niveau-là, c'est très difficile, en fait, parce qu'on peut pas faire de conférences presque vraiment internationales ici. L'autre, c'est pas un problème, mais c'est un défi, c'est vraiment de rejoindre les gens. Dans les aperçus que j'ai eus ici, il y en a qui disaient que c'était très pointu comme sujet, mais d'autres disent que c'est très large. Donc, c'est difficile de trouver le bon équilibre, à savoir et comment trouver des personnes académiques, des personnes de la société civile qui sont intéressées par ça. Et surtout, peut-être aller chercher des gens qui sont intéressés par ces enjeux-là, mais qui travaillent un peu en périphérie plutôt que des activistes qu'on connaît habituellement. Donc ça, c'est l'autre défi. Et finalement, peut-être un troisième défi qui est également plus organisationnel, c'est que je pense que depuis la pandémie, les gens, s'inscrivent beaucoup. Ils sont très sollicités, mais souvent, comme notre événement était gratuit, les gens s'inscrivaient. Puis on a eu une bonne participation, mais pas autant que le nombre de personnes qui avaient indiqué qu'ils allaient être inscrits. Donc ça aurait été bien, en fait, d'avoir davantage de monde. Je pense qu'on a eu un bon 50 personnes à chaque jour, là. C'est, comme vous avez pu constater, c'est à peu près ça, là.
Pour conclure, nous avons parlé avec Chanel, une étudiante en master qui a non seulement assisté aux sessions, mais a également participé à l'organisation du colloque, apportant ainsi une perspective précieuse sur l'engagement des jeunes dans cette discussion cruciale.
Je m'appelle Chanel Robin, je suis étudiante à la maîtrise en communication à l'Université de Montréal, sous la supervision de Stéphane Couture. Qui organise l'événement d'ailleurs. En fait, c'est Stéphane, moi, initialement, qui m'avait demandé si je voulais être cordeau pour l'année au lab, parce que dans le fond, Stéphane, il donne la place à ses étudiants à chaque année pour faire la coordination du labo. Puis là, c'était comme un peu à mon tour, puis il m'avait parlé de l'événement. Mais sauf qu'avant l'événement, il était supposé être en juin 2023, puis il m'en avait parlé à peu près 4 mois avant. Donc là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tout qu'un boulot. Puis finalement, il a retardé d'un an. Donc là, je me suis dit, OK, parfait, ça va me donner le temps. Au début, j'étais vraiment intimidée à envoyer des courriels à des profs de renommée, des gens quand même connus dans leur milieu, puis leur donner un peu des instructions, de dire, pouvez-vous vous inscrire à telle date? Puis, je me dis, OK, je suis qui pour leur demander ça? Puis à force de le faire, à un moment donné, il faut que le colloque s'organise, il faut que le colloque se fasse. Puis eux, ils ont l'expérience aussi d'autres colloques qui sont habitués de se faire solliciter. Donc là, je me suis dit, bon, c'est ma job, puis j'ai envie que le colloque arrive, donc je vais leur envoyer les courriels, ça va marcher. Puis un autre défi, ça serait peut-être essayer de rédiger mon mémoire tout en coordonnant l'espèce de multitâche. J'ai un peu de la misère avec le multitâche, donc ça a été le colloque pas mal toute l'année. Et là, pour l'été, j'avais, comme on dit en bon français, clenché mon projet. Maintenant que le colloque est fini, donc voilà.
Pour clôturer cet épisode, nous avons exploré les points saillants de ce colloque, mis en lumière les défis rencontrés et les opportunités créées. Ce colloque a non seulement permis de discuter des thèmes cruciaux, mais aussi de créer des ponts pour des futures collaborations. Nous espérons que ces discussions continueront à inspirer et à motiver tous ceux et celles qui s'intéressent aux droits et résistances numériques. Merci d'avoir écouté le podcast du jour 4, du dernier jour de notre colloque. Pour plus d'informations, visitez le site web labdelta.ca. Nous espérons que cette série de podcasts vous a apporté des perspectives nouvelles et enrichissantes. À bientôt pour de nouvelles découvertes.